Ils sont 10 jeunes Français. Ils viennent d'être primés par la prestigieuse revue américaine MIT Technology en tant que meilleurs innovateurs. Cette nouvelle génération représente l'entrepreneuriat made in France dans les domaines de la tech, de la finance, de la biomédecine ou encore de l'intelligence artificielle. Ils ont moins de 35 ans, ils ont des idées à revendre. Quatre d'entre eux sont avec nous dans un instant pour nous raconter comment leur idée a germé et comment ils sont en train de parvenir à la développer. Nous ne sommes pas l'unique civilisation avancée de l'histoire de l'univers, rien que ça, et c'est à la une de la science, Axel Villard, bonjour.
Oui Mathieu, bonjour, je ne vais pas vous annoncer la découverte des extraterrestres, on fera une émission spéciale pour ça, oui. Mm-hmm. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que les probabilités que nous soyons seuls dans l'univers frisent de très très près le zéro, explication dans un instant à la une.
Et c'est Stéphanie Texier et Céline Hila qui réalisent aujourd'hui l'émission.
La tête au carré, le club, avec Mathieu Villard sur France Inter.
Et la nouvelle génération d'innovateurs de moins de 35 ans, récompensés par un prix décerné par la prestigieuse revue MIT Technology. Ils sont 10 lauréats français. Nous recevons 4 d'entre eux aujourd'hui. Avec moi en studio, Franz Bojak et Laurent Boitard. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour.
Et puis par téléphone depuis Londres, nous sommes avec Clémentine Chambon. Bonjour.
Bonjour.
Et à Lisbonne, avec Timothée Boitouzet. Bienvenue à vous.
Bonjour, merci.
Franz Bojak, qu'est-ce que vous avez créé exactement avec votre start-up Instant? C'est comme
oui,
ça qu'on le prononce, hein?
Exactement. Ouais. Donc, j'ai créé la start-up Instant qui est en train de développer un stent connecté qui est capable de communiquer sur son état pour prévenir les complications.
Mais qu'est-ce qu'un stent?
Un stent, c'est une petite grille, un petit ressort qu'on met dans les artères pour les écarter après qu'ils étaient bouchés par la maladie cardiovasculaire afin d'éviter des crises cardiaques.
Vous nous en direz plus tout à l'heure. Clémentine Chambon, votre projet à vous s'appelle Orja. Quelle est votre idée exactement?
On développe une technologie qui permet de transformer les déchets agricoles en énergie renouvelable pour approvisionner des villages qui n'ont en ce moment pas l'électricité en Inde.
Voilà, vous travaillez en Inde en particulier. Laurent Boitard, vous avez fondé Millidrop, mais pour faire quoi exactement?
Alors Millidrop pour des gouttes millimétriques qui vont remplacer les boîtes de pétri. Donc nous avons créé un automate qui va permettre aux chercheurs de faire beaucoup plus d'expériences qu'ils ne font aujourd'hui.
Est-ce qu'on est dans le domaine de la microfluidique?
Nous sommes proches de la microfluidique, un petit peu plus gros, on appelle ça la millifluidique.
Bon, c'est l'échelle des gouttes qui n'est pas la même, alors vous Exactement. Allez nous raconter tout ça. Et puis enfin, Timothée Boitouzet, votre start-up s'appelle Woodoo. Qu'est-ce que vous y faites?
Tout à fait, donc nous on vient reconstruire le bois à l'échelle moléculaire pour en faire le matériau de construction le plus performant du 21e siècle. Alors c'est du bois qui est translucide, qui est imputrescible, qui est résistant au feu et qui est beaucoup plus rigide que le bois d'origine. Donc l'objectif, c'est d'en faire un super bois pour promouvoir la construction en bois.
En tout cas, on a compris que vous cherchez tous les quatre des solutions pour résoudre de grands défis. On va faire connaissance avec vous dans quelques instants. Vous êtes les invités du Club de la Tête au Carré. Nous ne sommes certainement pas seuls dans l'univers. C'est bon à savoir et c'est à la une de la science.
Ce matin, d'un signal radio non identifié provenant de l'espace ne peut être ni confirmé ni démenti.
Quoi que ce soit, ce n'est pas local.
Position ?
Elle n'est qu'à 26 années-lumière.
Il n'y a absolument aucune raison de penser que leurs intentions sont hostiles.
Rien ne prouve cette thèse.
Pourquoi ne parle-t-il pas notre langue ?
Deux physiciens et astrophysiciens de l'université de Rochester à New York se sont amusés à injecter toutes les connaissances nouvelles en astronomie depuis une dizaine d'années dans la très fameuse équation de Dirac. Cette formule mathématique qui a été imaginée en 1961 par Frank Dirac et qui permet donc d'estimer le nombre de civilisations extraterrestres avec qui nous pourrions entrer en contact. Alors les résultats sont fascinants et on en parle avec vous aujourd'hui, Hervé Cottin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astrochimiste et professeur à l'université Paris-Est-Créteil, vice-président de la Société française d'exobiologie. Ils sont donc là, quelque part dans l'espace. Il ne nous reste plus qu'à les trouver, ces extraterrestres, Hervé Cottin?
C'est effectivement ce qu'on espère. On espère que rien ne s'oppose à ce que la vie apparaisse ailleurs que sur la Terre. Et on essaye de mettre en œuvre les meilleurs moyens, les meilleurs outils, les meilleures façons de répondre à cette question qui effectivement nous fascine au-delà même du monde scientifique, nous fascine tous.
Et qu'est-ce qui permet aujourd'hui d'estimer aussi bien ce nombre d'extraterrestres? C'est le nombre d'exoplanètes qu'on a trouvé?
Alors oui, ce qui a changé vraiment radicalement au cours des 20 dernières années, c'est que on a une bonne idée maintenant du nombre d'étoiles qui sont entourées de planètes, donc on appelle des exoplanètes. Et donc maintenant, on arrive à la conclusion qu'à peu près chaque étoile a de très fortes chances d'être entourée d'exoplanètes. Donc ça en fait un nombre considérable.
Combien à peu près d'ailleurs, Hervé Cotin, une estimation ?
Alors pour l'instant, on a un peu plus de 2000 exoplanètes découvertes. Mais en fait, on peut, à partir de ce lot de découvertes, on peut en faire des statistiques, c'est-à-dire que jusqu'à présent, quasiment toutes les étoiles autour desquelles on serait en mesure de détecter des exoplanètes ont révélé la présence d'exoplanètes. Donc c'est pour ça qu'on a une probabilité qui est maintenant quasiment de 1 pour ce qui est en fait le premier terme de l'équation de Drake. Et dans les années 60, Drake, quand il a fait cette équation, n'avait aucune idée de la valeur de ce premier facteur.
Ouais. Et on peut imaginer qu'il y ait des milliards d'exoplanètes ?
Ah, très certainement, oui. On est quasiment autant d'étoiles, voire même plus, hein, parce qu'autour du Soleil, il y a 8 planètes, et on se met à découvrir maintenant des systèmes d'exoplanètes, donc il y en a, à mon avis, plus qu'il n'y a d'étoiles même, oui.
Ils sont quand même assez malins, ces deux physiciens, parce qu'ils ont pris le problème à l'envers. Au lieu de se dire, est-ce qu'il y a des civilisations extraterrestres, ils se sont dit, quelle serait la probabilité qu'il n'y en ait pas ? Quelle différence entre les deux façons de penser ?
Bah, c'est très lié, en fait. Ce qu'ils ont vraiment changé dans l'équation de Drake, c'est que Drake était dans la perspective de pouvoir communiquer avec une civilisation extraterrestre. Là, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est de se poser la question tout simplement, est-ce qu'il y en a déjà eu ? Qu'elles existent encore ou non ? Est-ce qu'il y en a déjà eu ? Donc voilà, on peut prendre un échantillonnage de temps et d'étoiles formées beaucoup plus important que ce que adressait l'équation de Drake originelle, qui était dans une plage de temps donnée, qui est la plage de temps de survie d'une civilisation qu'on ne connaît pas, hein, puisque pour l'instant on est toujours là, et j'espère pour longtemps, mais peut-être pas pour toute l'éternité devant nous.
Alors, il y en a eu ou pas ? Alors, c'est quoi leur réponse exactement à cette question ?
Alors, ce qu'ils ont fait, donc, c'est qu'ils ont aussi ajouté un autre élément très important dans l'équation, c'est le nombre d'étoiles qui possèdent des planètes dans leur zone habitable, c'est-à-dire ni trop loin, ni trop près de l'étoile pour qu'il y ait de l'eau à l'état liquide. Et ça aussi, c'est une révolution depuis peut-être même 5-6 ans maintenant, ou même un peu moins, c'est que maintenant on a l'impression que quasiment une étoile sur 5, entre une étoile sur 5 et une étoile sur 4 à peu près, a une ou plusieurs planètes dans sa zone habitable. Alors, être dans la zone habitable, ça ne veut pas forcément dire être habitable. Alors, par habitable, on dit il y a du reste de l'eau liquide, de la matière basée sur le carbone, mais parce qu'il faut aussi qu'il y ait un climat qui est favorable à ça, mais voilà, ça c'est quelque chose aussi qui est nouveau. Se dire que bon, en gros, grosso modo, toutes les étoiles sont entourées de planètes, et une sur cinq à une sur quatre ont des planètes qui pourraient avoir de l'eau liquide à la surface si le climat le permet. Et ça, voilà, c'est quelque chose qui est nouveau aussi. Et donc progressivement, dans tous les termes de l'équation de Drake, on avance petit à petit, et là en fait on arrive par contre à un espèce de mur entre ces termes qui sont des termes astronomiques. Donc là, les auteurs de cette étude les ont regroupés en un terme. Voilà, ça ils ont considéré que c'était quelque chose dont il n'y avait plus trop besoin de discuter, parce que c'est vraiment quelque chose qui a été établi récemment. Et après, bah, il y a un pas vers des facteurs qui sont par contre complètement inconnus, des facteurs qui essaient de déterminer la probabilité pour que la vie apparaisse. Ensuite, si la vie est apparue, la probabilité pour que cette vie développe une certaine forme d'intelligence. Et si la vie a développé une certaine forme d'intelligence, la probabilité pour qu'elle évolue vers une espèce de civilisation avec de la technologie qui pourrait communiquer vers d'autres mondes. Et ça, cela, ces trois termes, apparition de la vie, apparition de l'intelligence, apparition d'une technologie, on n'a aucune idée de la probabilité. Et alors ce qu'ont fait les auteurs, c'est de montrer que même si la probabilité sur ces termes est extrêmement, extrêmement faible, bien moins qu'une chance sur des milliers de milliards, hein, donc c'est des probabilités très faibles, même si ces probabilités sont très faibles, vu le nombre d'étoiles, et ben au final, ça serait quand même bien étonnant qu'on soit seul dans l'univers.
Est-ce que vous, dans votre travail qui est de la chercher, cette vie, entre autres, ce genre de résultat, ça vous fait du bien, ça vous conforte ?
Bah ça fait pas de mal, j'aurais tendance à dire, mais c'est quelque chose qui l'équation de Drake en fonction des auteurs qui ont travaillé sur cette notion, on a toujours des bornes qui sont optimistes et des bornes qui sont pessimistes. Après, je pense qu'au-delà de ça, il faut garder en tête que au final c'est pas de la probabilité, ce sont une suite d'événements qui dépendent d'un contexte, d'une planète, donc de sa géologie, de son climat, des ingrédients chimiques qui sont là. Et après, pour moi, alors j'ai peut-être un biais parce que je suis chimiste, que si on mélange deux, alors sans doute là plusieurs centaines, mais si on mélange un certain nombre de réactifs au départ, on a toujours le même résultat. Donc l'apparition de la vie, pour moi, c'est quelque chose quand même qui devrait être déterministe, si les conditions initiales sont remplies. Et ce qu'on ne sait pas, c'est le nombre de mondes, non seulement avec de l'eau liquide, mais qui remplirait tous ces facteurs, peut-être qui nous échappent encore, qui feraient peut-être baisser énormément les probabilités, qui permettraient à une apparition un peu inéluctable de la vie.
Est-ce que le système solaire a encore des chances de récompenser cette quête ?
Alors, l'axe majeur dans le système solaire, c'est quand même Mars, hein, parce que... c'est pas loin, hein, donc on peut y aller, c'est difficile, mais on peut y aller. On a maintenant des preuves que Mars a été habitable, c'est-à-dire qu'il y a eu de l'eau liquide à la surface, qu'il y a eu de la matière organique, donc basée sur le carbone à la surface. Est-ce que cette association conduit forcément à l'apparition de la vie ? On n'en sait rien, mais justement, Mars, c'est à portée de main, et ça va nous permettre de répondre à cette question, probablement dans les années qui viennent. Ça passera sans doute, à mon avis, par un retour d'échantillons sur Terre pour bénéficier de toute l'armada d'instrumentation qu'on peut avoir en laboratoire.
Ah ben on n'a pas fini d'en parler. Alors merci beaucoup Hervé Cottin pour ces précisions sur la vie ailleurs que sur notre petite planète bleue. Merci beaucoup Axel.
Quelques podcasts ce week-end et on se retrouve lundi.
À lundi. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, votre ADN peut vous faire paraître plus vieux que vous ne l'êtes réellement. Selon une étude parue dans la revue Current Biology, plusieurs variantes du gène MC1R qui contrôle la fabrication de la mélanine influent l'âge apparent de notre visage. Après avoir estimé l'âge de 2693 personnes par des observateurs, les scientifiques remarquent que les personnes jugées les plus âgées sont celles qui portent des versions particulières de ce gène, et ce indépendamment de leurs rides, tandis que les personnes qui possèdent les versions normales du gène paraissent 2 ans plus jeunes. L'effet de MC1R pourrait se rapprocher de celui du tabagisme, qui a aussi pour effet de faire paraître plus vieux. Toujours en génétique, une équipe de chercheurs aurait identifié la quasi-totalité des altérations à l'origine du cancer du sein. Ils publient dans la revue Nature le génome de 560 tumeurs et suspectent plus de 1600 altérations réparties sur 93 gènes d'être donc à l'origine du développement de cancers. Un travail considérable qui permet à la fois de mieux comprendre les cancers du sein et d'imaginer de nouvelles thérapies. Et puis encore une nouvelle idée à base de drones, une agence japonaise de publicité en ligne fait parler d'elle cette semaine avec une vidéo très colorée dans le cadre d'un projet artistique. L'agence a organisé un ballet aérien de drones lumineux devant le mont Fuji. Baptisé Sky Magic, cet événement a demandé 1 an et 4 mois de réalisation pour concevoir une chorégraphie, une musique et fabriquer 25 drones comptant 650 LED chacun, 16 500 points de lumière au total, tous synchrones entre eux et dansant en musique. Après donc le cinéma et la guerre, le drone a aussi su trouver sa place dans le domaine de l'art. La vidéo de ce ballet aérien est à retrouver sur la page Facebook de La Tête au Carré. It's only 4 degrees, it's only 4 degrees. It's only 4 degrees, it's only 4 degrees. It's only 4 degrees, it's only 4 degrees. It's only 4 degrees, it's only Four Degrees, Anony à l'instant.
La tête au carré. Le club.
Depuis plus de 10 ans maintenant, le MIT Technology Review récompense chaque année les jeunes innovateurs et entrepreneurs les plus talentueux du monde à travers l'édition mondiale Innovateurs de moins de 35 ans qui a lieu à Boston aux États-Unis. L'objectif de ce prix est de reconnaître donc l'innovation puis d'encourager le développement des nouvelles technologies pour résoudre les grands problèmes actuels et puis stimuler bien sûr le progrès. La revue du MIT est passée cette année par la France et 10 innovateurs français de moins de 35 ans ont été sélectionnés pour leur invention. Ces 10 Français rejoignent la prestigieuse communauté internationale qui est composée de plus de 200 jeunes innovateurs. Ils sont considérés comme les personnes les plus à même de faire avancer la société ou la science. 4 d'entre eux sont avec nous dans le club des têtes au carré aujourd'hui pour nous présenter leurs recherches et puis nous raconter également quelles sont les clés pour innover tant qu'à faire au mieux dans notre pays. Il y a d'abord Franz Bojak, vous êtes avec nous, vous avez 32 ans. Vous êtes docteur en ingénierie biomédicale et fondateur donc de la start-up Instant. Depuis Londres, Clémentine Chambon, 24 ans, vous êtes doctorante en génie chimique à l'Imperial College de Londres et fondatrice donc de la start-up Orja. Laurent Boitard, vous êtes en studio avec nous, vous avez 33 ans, c'est ça? Vous êtes ingénieur docteur en microbiologie et vous avez fondé la start-up Millidrop. Et puis enfin, depuis Lisbonne, nous sommes en ligne avec vous, Timothée Boitouzet, vous avez 29 ans, vous êtes architecte et vous avez fondé Woodoo. Alors comment d'abord s'est passée votre rencontre avec la revue MIT Technology à tous les quatre? Ce sont eux qui sont venus en France pour vous rencontrer. Comment ça s'est passé, Franck Bojak?
Donc typiquement, c'est normalement quelqu'un qui nomme la personne. Donc dans beaucoup de cas, on ne connaît même pas qui était la personne qui a pensé que l'innovateur devrait être récompensé par ce prix.
Ouais.
Et donc on reçoit un email un jour où ça dit, bon, vous étiez nommé, et donc s'il vous plaît, remplissez votre dossier. Et après quelques temps, ils vont revenir avec un appel ou pas en disant que vous étiez bien nommé ou pas.
Ouais. Clémentine, est-ce que vous avez dû défendre votre projet à l'oral ou tout s'est fait par dossier écrit?
Oui, pareil. On a envoyé tout notre dossier par écrit, puis finalement on nous a annoncé qu'on a été sélectionné. Et puis éventuellement on a fait partie d'une grande cérémonie à Paris pendant toute la journée où on a présenté nos projets à l'oral. Et après finalement présenter nos projets à près de 400 ou 500 personnes avec qui on a après pu discuter.
Ouais. Comment vous avez vécu ce moment, Laurent Boitard, où il faut justement, parler devant 400 personnes pour défendre son innovation?
J'avoue que ça n'a pas été quelque chose de très facile. C'était la première fois devant un grand public avec un micro. Donc là, c'est la deuxième fois que je parle à un micro.
Bah écoutez, bienvenue, ouais.
Et donc, bon, c'était intense, mais c'était très, très enrichissant, et ne serait-ce que les rencontres avec mes acolytes ici. Et puis, tous les gens dans cette salle qui étaient là pour nous encourager. Et cet encouragement aussi de la MIT Review, je pense, qui est très important pour nous.
Timothée, justement, Boitouzet, vous connaissiez cette revue, évidemment, son prestige, et puis aussi, vous saviez qu'il repérait des Français ces derniers temps ?
Oui, tout à fait. La MIT Technology Review, c'est un peu la mecque de l'innovation à l'échelle internationale. Donc, c'est eux qui viennent repérer les innovateurs ou les technologies de rupture qui sont les plus intéressantes chaque année.
Quand est-ce que vous avez appris donc que vous aviez été sélectionné, que vous faisiez partie donc des 10 Français de moins de 35 ans les plus prometteurs dans le domaine de l'innovation ?
C'était en mars, on nous a envoyé un email. Donc, comme disait Clémentine, on a été nominé par un institut ou quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ouais. Et après, on est revenu vers nous pour remplir un dossier et candidater. Et après, ils sont revenus vers nous en mars pour nous dire qu'on était sélectionné parmi les 10 innovateurs.
Eh bien, écoutez, félicitations en tout cas. On est très heureux de recevoir 4 d'entre vous cet après-midi parce que vous avez des camarades qui voyagent déjà beaucoup. On sent que le business est très présent. Franz Bojak, hein, ça y est, vous êtes tous lancés au fond. Hein.
Oui, tout à fait. On a donc une scène s'est lancée il y a 2 ans. Ouais. Et je dirais ce genre de récompense qui récompense surtout, c'est pas que des individus, parce que Instant c'est surtout l'équipe qui a travaillé là-dessus depuis les 2 dernières années, et c'est aussi une récompense justement de tout leur travail qu'ils investissent à fond chaque journée. Et effectivement, avec une récompense pour ça, il y a un focus sur Instant qui fait que qu'on se balade pas mal. Ouais.
Ça c'est votre start-up. C'est important ce genre de prix, Laurent Boitard. Ça donne confiance aussi à des moments où évidemment vous êtes en train de démarrer votre projet.
Alors c'est sûr que c'est une belle reconnaissance, et puis j'aimerais reprendre effectivement ce qu'a dit Franck. Hein. Aujourd'hui, la MIT Review, elle nous récompense, nous, innovateurs, mais derrière, on a travaillé, moi, pendant 10 ans dans un laboratoire, et je pense que c'est tout le travail de recherche du laboratoire, en particulier, qui est récompensé par ce prix. Et c'est vrai que c'est assez sympa de se dire que voilà, on a une reconnaissance pas seulement en France mais aussi à l'international, et ça peut nous ouvrir des portes. Et je pense qu'on va essayer d'en profiter un maximum.
Ouais. Franz Bojak, entrons dans le cœur de vos recherches pour comprendre justement pourquoi vous avez été sélectionné dans ce domaine donc du biomédical. Vous êtes docteur en ingénierie biomédicale, fondateur donc de cette start-up. Quel est votre parcours justement avant la création de la start-up ?
Donc j'ai commencé comme ingénieur aérospatial en Allemagne, parce que j'étais toujours dès très jeune âge, toujours visé vers les étoiles. Uh-huh. Et j'ai fait ma toute dernière année aux États-Unis à UC Davis en Californie. Et c'est là où j'ai rencontré Abdul Barakat, qui m'a dévié un peu de mon parcours et qui m'a invité donc d'explorer ou de voir qu'il y a aussi d'autres choses qui sont très intéressantes, pas que dans les étoiles, mais aussi sur Terre, dans l'humain. Et qui m'a demandé donc de faire une thèse sur des stents, donc ces petits ressorts dont je viens de parler, qui sont posés pour éviter les crises cardiaques dans les patients atteints de la maladie cardiovasculaire, qui m'a donc invité de faire une thèse à l'École Polytechnique là-dessus. Et c'était pendant cette thèse-là que je me suis rendu compte des problèmes, et c'est de là où est venue l'idée de faire un stent communicant derrière.
Ouais. Mais alors, c'est-à-dire que vous n'avez pas fait le choix de votre thèse ?
J'ai fait le choix de mon thèse, de ma thèse, j'ai dit oui. Mm-hmm. Mais c'était pas, disons que si vous m'auriez demandé il y a 7 ans qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, j'aurais jamais dit que ça sera dans le biomédical et sur les dispositifs médicaux.
Ouais. Alors, quelle est votre idée exactement, qui vous a d'ailleurs donné également un prix, puisque vous avez gagné le concours mondial de l'innovation, il y avait 200 000 euros à la clé pour votre entreprise en avril 2014. Alors, autour donc de ces petits ressorts, on peut dire que c'est un petit peu comme ça, hein, les stents.
Oui, exactement.
Qu'est-ce que vous avez choisi d'inventer, au fond, pour améliorer le procédé ?
Donc, le problème aujourd'hui, c'est que lorsqu'on pose le stent, l'artère même qui a été écartée est aussi abîmée.
Ouais.
Et ce qui est important, après la pose, pour le succès de ce traitement, c'est que cette blessure cicatrise. Et aujourd'hui, la plupart des complications qui arrivent à cause d'une mal cicatrisation. Et donc, mon idée, c'était, est-ce que ça serait pas utile d'avoir des informations sur le dispositif même? Donc, pour savoir, est-ce comment se passe vraiment cette cicatrisation? Et c'est vraiment avec cette idée en tête que j'ai donc développé d'abord un concept, parce que moi j'avais pas du tout une formation en microélectronique, c'était aérospatial et après biomédical, mais pas du tout ça. Donc j'ai essayé de me renseigner un petit peu, qu'est-ce qu'il est du tout possible possible. Et j'ai présenté ça aussi à mon directeur de thèse, qui était très, très chaud, qui m'a dit, il va me soutenir. Et ça, c'est, je dirais, dans l'innovation aujourd'hui, ce qui est vraiment important, c'est qu'on n'est pas seul.
C'est d'être épaulé aussi.
Exactement. Ouais. Et après, j'ai cherché et rencontré un chercheur qui était plus dans la microélectronique, et je lui ai posé simplement la question, je lui ai exposé mon idée et simplement posé la question, est-ce que c'est ce que je te viens d'expliquer, est-ce que c'est fou ou faisable?
Ouais.
Et sa réponse était, c'est fou mais faisable. Et ouais. Pour moi, ça, c'était un peu la raison de dire, ok, si c'est comme ça, et je sais que ça va aider des millions et des millions de patients chaque année, parce qu'il y a 7 millions de stents qui sont posés chaque année, donc on y va, on va essayer de développer ça.
Ouais. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On fait une étude de marché, on se renseigne pour savoir si quelque part dans le monde, quelqu'un n'est pas en train de travailler sur la même idée que la vôtre. Comment on procède?
Il y a plusieurs choses. Donc la première, c'est bien évidemment de parler avec les médecins. Parce que vu que moi, je ne suis pas médecin à la base, il faut comprendre, est-ce que le besoin que j'ai... Moi, j'avais étudié beaucoup la littérature, et dans la littérature, les complications qui sont quand même... Ils apparaissent, les questions que nous, on s'est posées apparaissent, mais il faut quand même valider avec des médecins. Donc on a parlé, par exemple, avec professeur Lafont, qui était un médecin qui était avec... Un cardiologue qui était avec nous dès le début, en fait, pour demander est-ce que ça c'est vraiment une problématique, est-ce que avec ce stent ça serait vraiment utile. Donc ça, c'est la première chose à faire. Et ensuite, effectivement, il faut regarder un peu dans la littérature, dans quels brevets existent, est-ce qu'il y a des papiers qui existent. Et finalement, si vous voulez, j'ai identifié qu'il y avait effectivement des laboratoires qui ont travaillé sur l'intégration des capteurs de pression avec des stents, mais qu'ils n'ont jamais dépassé ce stade-là.
Ouais.
Et je me suis aussi rendu compte que par rapport à la question qu'elle nous en veut répondre, ces dispositifs n'aident pas vraiment. C'est une information trop grossière, je dirais, trop globale sur le dispositif. Et mon idée, le concept que j'avais développé et que j'avais validé donc avec des médecins, c'était vraiment d'avoir des informations beaucoup plus précises et distribuées sur tout le dispositif.
Ouais.
Et là, effectivement, j'ai rien trouvé. Et donc, ce qui faisait aussi qu'il fallait construire toute une équipe et faire toute la recherche autour, parce que là, il fallait développer un nouveau capteur, en fait.
Et ça, cette recherche, vous l'avez faite en Allemagne?
Cette
recherche?
Non, tout en France, à l'École Polytechnique. C'était vraiment, d'après les États-Unis, je suis revenu pas en Allemagne, mais en France, à l'École Polytechnique.
Vous en êtes où aujourd'hui de ce projet? Alors, il est abouti déjà?
Il est abouti à un stade où on a donc le capteur même qui était à la base, il est développé. Il est validé pas qu'au niveau laboratoire, mais aussi dans des animaux déjà. Donc on est passé déjà dans une étape vivante. Et on a aujourd'hui une première version de notre stent connecté qui est pas encore connecté dans le sens que ça communique sans fil. Aujourd'hui, on a intégré ces capteurs d'une manière filière avec le stent et testé ça dans un animal.
Ouais, il faut être patient quand on est jeune innovateur sur ce type de projet, en plus avec les phases cliniques, évidemment, qui demandent beaucoup de temps.
Absolument, absolument. Le
biomédical.
Le biomédical et les dispositifs médicaux, très encadré. On ne va pas avoir un produit qui sera peut-être implanté chez l'homme vers 2019.
Vous avez la patience d'attendre?
Ah oui, tout à fait. C'est le but qui compte ici. Et donc, ce que je veux, c'est que cette innovation arrive vraiment vers chez le patient. C'est ça ce qui est clé. Et c'est ça ce qui donne, je dirais, le courage chaque matin de se lever. Et d'accord, on y fonce, on y va.
Franz Bojak, donc l'un des 10 lauréats récompensés pour la France par la revue MIT Technology. Vous restez avec nous. Autre découverte, autre projet avec Laurent Boitard et Clémentine Chambon et Timothée Boitouzé dans un instant.
Will you remember my hand caressing the milk of your skin? We'll be a million anthems to celebrate the love we've seen. Will you remember at the end the subtle dance of fading spring? And with the same sky over our heads, your face will turn to other screens.
On ne s'est jamais revu, vu le temps qui passe, les années qui défilent et je regarde en face. Les portes claquent sur mes joues, les questions à devenir fou. Vu le temps qui presse, les traces sur mes joues laissent des maladresses. On s'est dit-tu, de toute façon, on ne se reverra plus. Elle était jolie l'histoire, elle s'envola en haut des cimes. Mais le silence m'a laissé croire que j'avais commis un crime. Elle était dans ma mémoire, au bout du rêve, loin de la routine. L'indifférence d'un demi-roi
quelques coups de chevrotine. On ne s'est jamais revu, vu, vu le temps qui passe. Les années qui défilent, je regarde en face. Les portes claquent sur mes genoux. Les questions à devenir fou. Vu, vu, vu le temps qui presse. Les traces sur mes joues laissent des maladresses. Pourquoi on s'est dit tu? De toute façon, on ne se reverra plus. Au regard, au souvenir, je les dessine à la gouache. Quand ils ne savent plus revenir. Will you remember my hand cursing the milk of your skin? Would be a million anthems to celebrate the love we've seen. We never met again. Then time goes by, switch into the room where we find the lights. Doors stand over my face, on your tongue, sour taste. Just stand, time goes by. To the moon, nothing left behind. To hell, we are standing here. Cause anyway, we'll never meet again.
Porte claque la grande Sophie.
La tête au carré. Le club. Sur France Inter.
Et je suis cet après-midi avec 4 des 10 lauréats français récompensés par la revue MIT Technology. Ils sont considérés comme les jeunes innovateurs et entrepreneurs les plus talentueux du monde. On va faire maintenant connaissance avec vous, Clémentine Chambon. Vous n'avez que 24 ans, vous êtes doctorante en génie chimique et fondatrice donc de la start-up Orja. D'où vient ce nom exactement? C'est un nom indien?
Oui, c'est ça, c'est un nom qui vient de le hindi. Donc en hindi, Orja, ça veut dire l'énergie.
Alors, vous avez reçu le prix Innovatrice Sociale de l'année. Quelle est votre idée exactement et pourquoi avoir choisi l'Inde comme terrain de recherche pour vous?
Alors, notre idée mêle un peu la science, la technologie et aussi le développement social. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est d'approvisionner en électricité fiable et abordable les plus de 450 millions de personnes en Inde qui vivent sans électricité. Donc, un tiers des gens qui n'ont pas accès à l'électricité dans le monde sont en Inde.
Ouais.
Il y a aussi une énorme population très densément peuplée dans certaines régions, par exemple dans l'état de l'Uttar Pradesh au nord de l'Inde, là où on va commencer notre projet. Donc, ce qu'on a développé, c'est une technologie qui permet de transformer les déchets d'agriculture en énergie renouvelable. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on construit des mini-réseaux donc l'électricité est générée par une technologie hybride qui consiste à transformer à la fois la biomasse dans un réacteur de gazification en électricité et en même temps on utilise de l'énergie solaire aussi pour générer l'électricité. Puis cette énergie elle est transmise à travers des mini-réseaux sur une zone de 2 ou 3 kilomètres pour approvisionner en même temps les villages et aussi les micro-entreprises qui sont aux alentours du système.
Et donc ce sont quoi des mini-centrales au fond que vous êtes en train de mettre au point?
Oui, exactement. Donc, ce sont des mini-centrales d'à peu près 25 kilowatts de capacité qui permettent de relier à la fois d'approvisionner les micro-entreprises. Donc, ça peut être, par exemple, des moulins à grains ou à blé. Et en même temps, d'approvisionner aussi les foyers à bas revenus qui se trouvent dans les alentours de ces centrales.
Alors, comment est née l'idée pour vous au départ? Vous avez fait un voyage en Inde, vous avez un petit peu parcouru le pays et justement, en voyageant là-bas, vous vous êtes dit, tiens, il y a quelque chose à inventer pour valoriser la biomasse?
Non, en fait, le projet a commencé à travers une école d'été qui s'appelle Climate Geek. Donc, c'est un programme de 5 semaines qui essaie de former une nouvelle génération d'entrepreneurs qui travailleront dans le domaine du changement climatique. Et c'est là que j'ai rencontré mon cofondateur qui, lui, est indien et avait déjà beaucoup d'expertise dans l'entrepreneuriat social et aussi en travaillant dans les zones rurales en Inde. Et c'est là qu'on a décidé, en fait, de combiner nos spécialités. Donc, à travers ma thèse, j'avais de l'expertise pour comment convertir la biomasse en énergie propre. Et lui était diplômé de Columbia à New York en affaires internationales et en développement politique et économique. Donc, en fait, on a tout simplement combiné ce qu'on savait pour pouvoir construire un projet qui vise à la fois à développer économiquement les zones rurales à travers l'énergie renouvelable, aussi à former les gens et à créer vraiment un modèle qu'on pourrait reproduire pour après approvisionner en électricité propre des centaines ou des milliers de villages en Inde.
Oui, donc c'était important pour vous également de pouvoir travailler avec les personnes directement sur place. On va écouter Clémentine Chambon, le ministre de l'Environnement indien. Il s'appelle Prakash Javadekar. C'était en 2015 et il parlait de son engagement pour son pays contre le réchauffement climatique.
Nous voulons réduire l'intensité de nos émissions de 35% d'ici 2030. Nous voulons que les émissions de carbone soient limitées à 3,59 milliards de tonnes. C'est une contribution énorme de la part d'un pays développé. L'Inde s'est fixé des objectifs ambitieux, complets, et qui vont vraiment aider le monde à faire face aux défis posés par le réchauffement climatique.
Clémentine Chambon, le réchauffement climatique, c'est un enjeu que vous sentez très présent dans la politique indienne aujourd'hui, et même auprès des populations ou pas?
Oui, alors en Inde, il y a près d'un demi-milliard de personnes qui vivent toujours sans électricité. Donc le gouvernement a mis comme priorité l'énergie en tant qu'objectif pour les prochaines 10 années. Mm-hmm. Mais par contre, il y a toujours des distinctions de comment on pourrait évidemment électrifier ces personnes. Donc pour le gouvernement indien, le plan d'électrification se repose surtout sur des centrales à charbon.
Très polluantes, évidemment.
Il y a des centrales à énergie solaire. Mmh. Mais bon, il y a plus de focus alors sur la production d'énergie centralisée par de grandes centrales qui sont après distribuées. Bon, l'électricité est après distribuée dans les zones rurales, mais ce sont toujours les zones rurales qui sont les derniers à se faire servir. Alors nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de développer aussi en parallèle, donc c'est pas nécessairement en compétition avec le réseau national, mais d'avoir des systèmes décentralisés. Donc ça veut dire que on produit localement l'électricité à partir de ressources qui sont déjà sur place, donc par exemple les déchets d'agriculture, et on utilise des mini-réseaux pour atteindre des personnes qui sinon ne seraient pas atteintes par le réseau national.
Oui. Alors votre première mini-centrale, elle va sortir de terre quand exactement? Parce que là on parle de ce projet, mais concrètement, quand est-ce que vous allez pouvoir véritablement montrer que votre innovation est une bonne idée?
Alors, on prévoit de faire le projet pilote à l'Uttar Pradesh en octobre de cette année. Mm-hmm. Donc ça sera la première mini-centrale qui reliera près d'une centaine de foyers et aussi une trentaine de micro-entreprises. Et à partir de ce projet pilote, on pourra d'abord établir si toutes les ressources sont en place pour avoir un projet qui peut être viable. Et après, démontrer que notre modèle économique pourrait être reproduit à plusieurs dizaines, centaines, milliers de fois. Parce que le but ici, c'est de travailler vraiment sur une grande échelle, pouvoir atteindre, on pourra avoir vraiment un impact sur le changement climatique et pouvoir éviter les émissions qui sont sinon émises par exemple, l'utilisation du kérosène et du diesel. Alors le but, c'est de les remplacer par l'énergie moderne et propre qui soit abordable pour toute la communauté et pas seulement une petite partie de celui-ci.
Oui. Orja, projet donc pour l'Inde, pour utiliser les déchets issus de l'agriculture et produire de l'énergie électrique. Première mini-centrale donc expérimentale en octobre prochain. Clémentine Chambon, on vous souhaite bonne chance puisque vous avez déjà été encouragée, on l'a dit, par la revue MIT Technology. Laurent Boitard, vous avez 33 ans, vous êtes avec nous en studio, vous êtes ingénieur, docteur en microbiologie et fondateur donc de la start-up Millidrop qui propose une gamme d'instruments modulaires qui repose sur la millifluidique. Alors on avait fait une émission sur la microfluidique il n'y a pas très longtemps pour l'ouverture de l'Institut Pierre-Gilles de Gênes qui a ouvert ses portes il y a quelques mois. Alors qu'est-ce qui vous différencie? C'est l'échelle des gouttes, c'est ça quasiment?
Tout à fait, donc la microfluidique, donc maintenant vous connaissez très bien, vous avez rencontré le directeur de l'Institut Pierre-Gilles de Gênes. Donc c'est des écoulements à petite échelle micrométrique. Nous, on travaille une échelle un peu plus grosse, c'est l'échelle du millimètre. Donc c'est une échelle qu'on peut voir avec notre œil et pas avec un microscope.
Ouais.
Et pourquoi cette échelle? Puisque nous, on travaille en microbiologie et pour pouvoir faire pousser des cellules, il faut leur donner suffisamment à manger. Et si les gouttes sont trop petites, il n'y a pas suffisamment à manger, donc on ne peut pas forcément les faire pousser. Donc c'était un peu ça le concept, on s'est dit quelle va être la bonne échelle. Si on prend une échelle trop grosse, à ce moment-là on se retrouve dans les échelles standards, ce qu'utilisent déjà les microbiologistes,
ouais.
Ce qu'on essaie de remplacer. Et donc on a essayé de trouver la bonne échelle, et c'était cette échelle millimétrique.
Ouais. Ce que vous essayez de remplacer, au fond, ce sont les tubes à essai traditionnels, c'est
voilà,
ça?
Voilà, les tubes à essai.
Après, il y a d'autres échelles.
Voilà, donc aujourd'hui, la microbiologie classique, ça n'a pas changé depuis Pasteur, donc ça fait 130 ans qu'on fait des boîtes de pétri. Des tubes à essai. Et j'étais encore hier en Hollande pour notre premier prototype et je regardais effectivement comment est-ce qu'il fonctionnait. Et c'est toujours les boîtes de pétri, les tubes à essai, ouais. Ce qui marche très très bien. Mais c'est quelque chose qui est tout à fait manuel, qu'il faut reproduire à la main. Donc ça, les chercheurs passent beaucoup de temps à étaler leurs boîtes, à faire des tubes. Ils passent beaucoup moins de temps à faire leur recherche. Ouais. Moi, ce que je veux proposer, c'est un instrument dans lequel ils vont mettre leur échantillon, ils vont appuyer sur un bouton, ils vont pouvoir aller faire leur recherche pendant que l'instrument, lui, fait les cultures un peu pour eux.
Ouais, donc c'est la préhistoire, finalement, hein, que vous souhaitez balayer d'un revers de main quasiment avec votre projet et votre start-up.
Oui, alors peut-être pas la préhistoire. Je pense que les boîtes de pétri ont encore un long avenir. Je pense que on est plutôt là pour complémenter un peu ce qui se passe dans les laboratoires. On n'est pas là pour totalement remplacer. On est là pour apporter une solution pour optimiser ce qui se passe déjà dans le laboratoire. Donc notre instrument, c'est pas juste un instrument qu'on pose sur sa paillasse et on jette tous les autres instruments. C'est un instrument qui va pouvoir aussi s'interfacer avec les autres machines du laboratoire.
Ouais, comment ça naît une idée comme ça dans la tête d'un jeune homme comme vous?
Alors, ça n'est pas que dans ma tête, hein, c'est vraiment un travail d'équipe. Je pense que l'idée originelle, elle vient plutôt du directeur de mon laboratoire, qui s'est dit, tiens, ces gouttes, c'est quand même intéressant. Et donc, moi, j'ai travaillé pendant 10 années, justement, dans la microfluidique. Donc, je connaissais très bien ces toutes petites gouttes. Et j'ai fait ma thèse, dans laquelle j'ai étudié la levure de bière, essayer de voir comment est-ce qu'elle fermentait dans ces petites gouttes. On a obtenu des résultats très très intéressants. Donc j'arrivais à étudier une seule cellule et à voir comment est-ce qu'elle fabriquait de l'éthanol, par exemple, à partir de juste une seule cellule. Et assez rapidement, je me suis rendu compte qu'avec ces petites gouttes, ben j'arrivais à faire pousser 3, 4, 5 cellules. Et puis après, elles poussaient plus, il y avait plus assez à manger. Et donc c'est là où on s'est dit, ben, peut-être qu'il faudrait passer à une échelle supérieure. Et là, ce changement d'échelle aussi nécessitait un changement vraiment, une rupture technologique.
Ouais.
Qui était différent de ce que j'avais déjà vu dans la microfluidique, donc ça nécessitait de passer une autre échelle, et ça donc ça nécessitait de changer aussi un état d'esprit. Puis on s'y est mis. Il y a eu une thèse qui a été faite pendant que moi j'étais en thèse sur ce sujet, et à la fin de ma thèse j'ai repris vraiment ce projet pour vraiment passer de la preuve de concept sous un microscope à un instrument, une machine, quelque chose qui pourrait servir ensuite aux autres laboratoires.
Ouais, on a l'impression que c'est un secteur en pleine expansion qui va prendre une importance considérable. D'ailleurs, il faut voir, hein, quand on conçoit un institut comme l'Institut Pergille de Gênes, par exemple, hein, c'est qu'on met beaucoup de moyens. Pour bien comprendre, pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce domaine-là, pourquoi c'est aussi important aujourd'hui? Pourquoi on met autant d'argent autour de ces projets et ces changements d'échelle?
Bah en fait, c'est un peu comme si vous voulez le passage, la miniaturisation dans l'électronique, la diminution des transistors. Maintenant, vous pouvez faire toutes vos opérations tout sur votre smartphone.
Ouais.
Et ben c'est de la même manière. Aujourd'hui, avant dans le laboratoire, on utilisait des grandes cultures, beaucoup de personnel. Ça coûte maintenant. On n'a pas forcément les laboratoires de recherche n'ont pas forcément suffisamment d'étudiants, de personnes pour faire ces expériences. Donc c'est la possibilité justement de remplacer tout ça par des instruments qui vont pouvoir le faire. Et en miniaturisant, on va pouvoir du coup faire beaucoup plus d'échantillons en même temps. Et la microfluidique, ce que ça apporte en plus, et ce qui est un peu dans la même optique que nous, c'est qu'en miniaturisant, on va pouvoir même s'approcher du patient, donc pouvoir faire même du point of care, puisque du coup...
C'est-à-dire
qu'on pourra faire les prélever sur le patient et faire l'analyse directement en direct à côté de lui. Pas besoin de prélever l'échantillon, de l'envoyer dans un laboratoire pour analyse, pour mettre sous un microscope. Parce que tout est déjà intégré dans la même machine.
Donc avec la millifluidique.
Et avec la millifluidique.
Pour la distinguer de la microfluidique.
Tout à fait.
Ouais. Cette start-up que vous avez créée, elle est française ou pas aujourd'hui?
C'est une start-up française, oui, que nous avons créée à Paris. Et nous sommes hébergés justement dans l'Institut Pierre-Gilles de Gênes.
C'est important pour vous de travailler en France? Est-ce que ça permet toute liberté? Au contraire, il y a quelques obstacles qu'il faut savoir contourner?
Alors, pourquoi est-ce qu'on travaille en France? Et pourquoi? Parce que déjà, ces recherches, ces idées, elles sont nées en France, elles sont nées à l'ESPCI, dans notre laboratoire, et je pense qu'il n'y avait pas de raison de partir. En plus, on a besoin encore des forces vives. Cette start-up, si elle fonctionne, c'est qu'elle est encore un pied dans le laboratoire et un pied chez elle. Donc on a besoin d'innovation, on a besoin des gens qui ont pensé cette technologie pour continuer à la faire progresser et innover, toujours innover. Et donc je pense que c'est aujourd'hui on a la bonne matière grise et donc il n'y a pas de raison de partir ailleurs.
Eh bien on va la garder en France tant qu'à faire, Laurent Boitard avec ce projet autour de la millifluidique. Et dans un instant on retrouvera Timothée Boitouzé à Lisbonne pour nous parler du bois de demain. Outside.
liver. Well, if you want shady, this is what I'll give you. A little bit of weed mixed with some hard liquor. Some vodka that'll jumpstart my heart quicker than a shock when I get shocked at the hospital by the doctor when I'm not cooperating. When I'm rocking the table while he's operating. You waited this long to stop debating, cause I'm back, I'm on the rag and ovulating. I know that you got a job, Miss Cheney, but your husband's heart problem's complicating. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. So come on and dip, come on your lips, fuck that, come on your lips, and come on your tits and get ready. Cause this shit's about to get heavy, I just settled all my lawsuits. Fuck you, Devin! Now this looks like a job for me, so everybody just follow me. Cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me. You can get your ass kicked worse than them little Limp Bizkit bastards. And Moby, you can get stomped by Obie. You 36-year-old boy headed fat clone. You don't know me, you're too old, let go, it's over. Nobody listen to techno, now let's go. Just give me the signal, I'll be there with a whole list full of new insults. I've been dope, suspenseful with a pencil ever since Prince turned himself into a symbol. But sometimes the shit just seems everybody only wants to disgust me. So this must mean I'm disgusting. But it's just me, I'm just obscene. Hell, I'm not the first king of controversy. I am the worst thing since Elvis Presley.
Without me, Eminem. Allez, dernier innovateur récompensé par la revue MIT Technology pour ce club des têtes au carré consacré donc aux jeunes innovateurs français de moins de 35 ans. Timothée Boitouzet, vous êtes avec nous depuis Lisbonne, vous avez 29 ans. Alors vous êtes architecte, innovateur de l'année, fondateur de Woodoo qui a reçu donc le prix innovation. Et votre idée est très originale parce que vous souhaitez faire du bois translucide. Quelle drôle d'idée, comment c'est né dans votre tête tout ça?
Alors oui, le bois translucide, c'est important de dire que il a plein de caractéristiques. Il est translucide, ce qui lui permet en gros de promouvoir le bois, de lui donner une nouvelle identité, de reconstruire un peu la physicalité du bois pour promouvoir son utilisation. Mais il a aussi beaucoup d'autres caractéristiques. En fait, on reconstruit toute l'anatomie du bois à l'échelle moléculaire et on lui confère non seulement un aspect optique très intéressant, mais aussi une capacité à être imputrescible, plus résistant au feu et trois fois plus rigide que le bois d'origine.
Ouais.
Donc l'idée, c'est un peu d'en faire du super bois pour le promouvoir dans les constructions et pouvoir construire les villes de demain en bois.
Donc vous partez du bois naturel et ensuite vous appliquez vos idées hein, pour le transformer.
Voilà, tout à fait. Alors le processus de transformation de ce matériau, ça commence à partir du bois naturel. Moi je suis architecte, donc non seulement la microgéométrie du bois me fascine en tant que tel. Donc on conserve l'intégrité de la structure cellulaire du bois, on vient enlever la lignine. On peut par la suite transformer en biocarburant, ce qui vient réduire aussi nos coûts de production. Sur l'aspect économique, j'en parlerai peut-être après. Et ensuite, on vient imprégner cette matrice cellulaire par un monomère biosourcé qui va venir durcir à l'intérieur des cavités du bois pour en faire un bois beaucoup plus dense et beaucoup plus performant structurellement.
Timothée Boitouzet, justement, ce projet-là, comment vous l'avez imaginé au départ? C'est en vous baladant dans la forêt, tout simplement? Ou vous avez là aussi travaillé avec un directeur de thèse qui vous a dit ce serait peut-être le secteur à explorer?
Alors, moi, je suis parti faire mes études au Japon. Quand j'ai eu 20 ans, je suis parti au Japon et je me suis vraiment fasciné pour, d'une part, l'architecture en bois, qui est très typique à l'architecture japonaise, et aussi la sensibilité japonaise qui était d'intégrer les éléments immatériels comme la lumière, l'humidité, etc., à la matière elle-même. Il y a un principe qui est cher à la culture japonaise, c'est la sensibilité pour l'éphémère. Et donc j'ai travaillé pour plusieurs architectes qui avaient cette sensibilité forte pour reconstruire la matière et la rendre réactive aux éléments immatériels. Et donc ça m'a fasciné et j'ai décidé de poursuivre en gros cette quête à travers une université aux États-Unis, donc qui est l'université d'Harvard,
ouais,
où j'ai pu intégrer l'outil technologique à travers cette transformation de la matière, qui m'a permis de dépasser un cap et puis de reconstruire ce bois-là en combinant la nature et la technologie.
Ouais. Alors ce bois du futur, hein, puisqu'on peut le présenter comme ça, quel est vraiment son intérêt? Quels sont ses atouts par rapport au bois qui existe aujourd'hui? Est-ce qu'il est moins cher? Est-ce que son empreinte carbone est moins importante? Qu'est-ce qu'on peut en dire?
Oui, alors ce qui est très important, c'est de commencer par vous parler des challenges des décennies à venir. D'ici 2100, il y aura 12 milliards d'individus sur la planète. Et 80% de ces individus-là vont vivre dans les villes. La population des villes aujourd'hui augmente de 180 000 habitants par jour, selon les Nations Unies. Donc, dans le futur, on va devoir construire plus dense, plus haut, plus rapidement et plus écologique. Et ça, en soi, le bois, c'est le matériau de prédilection pour construire ces villes du futur.
Ça veut dire qu'on va laisser le béton au profit du bois?
Tout à fait. C'est le seul matériau de construction qui soit 100% renouvelable, le bois. Les forêts recouvrent aussi un tiers des surfaces émergées de la planète. Donc le bois, en tant que matériau, même pas modifié, c'est le matériau le plus écologique qui soit pour construire les villes de demain. Le bois, pour vous expliquer, par exemple, un arbre, il vient capter le CO2 et il produit de l'oxygène. Ce CO2, il vient le stocker dans sa structure. Donc le fait de prendre du bois et de construire avec, c'est comme si on stockait le CO2 dans le bâtiment au lieu d'émettre du CO2 pour créer de l'énergie, pour couler du béton, pour faire des bâtiments.
Est-ce qu'on sera capable de tout construire? Je pense évidemment aux buildings, aux immeubles les plus hauts. Est-ce qu'avec le bois, on sera à même de pouvoir répondre à cette demande aussi?
Alors, le bois, actuellement, tel quel, c'est un matériau périssable. Il présente certaines limites fondamentales qui sont le fait qu'il brûle, il pourrit et il a une résistance limitée dans la construction. Au-dessus de 12 étages, c'est difficile de construire en bois, le bâtiment devient instable.
Ouais.
Le bois translucide donc qu'on développe avec Wudu, d'une part, ça lui confère un caractère imputrescible, donc il est complètement résistant aux intempéries. C'est comme si les fibres étaient soudées les unes avec les autres, il vient pas changer de dimension, il vient pas s'oxyder avec l'humidité et l'air. D'autre part, il est plus résistant au feu, parce que sa masse volumique, elle a augmenté. Et le fait de venir remplir ces cavités et de les fusionner les unes avec les autres, finalement, ça permet de construire plus haut. Il est 3 fois plus rigide que le bois d'origine, ce bois translucide. Et donc, aujourd'hui, si on peut construire jusqu'à 12 étages en bois, avec ce matériau, dans le futur, à terme, on pourra construire des tours de 30 ou 40 étages en bois.
Ce bois translucide, Timothée Boitouzé, il existe déjà ou pas?
Alors ce bois, pour l'instant, nous, on est en étape de recherche et développement en laboratoire. J'ai commencé donc cette recherche à l'université d'Harvard durant mes études. J'ai collaboré aussi avec le Media Lab du MIT. De retour en France après mes études, j'ai pu collaborer aussi avec d'autres instituts comme l'École des Arts et Métiers à Paris ou le LERMAB à Nancy, qui est un pôle d'excellence pour la recherche sur le bois.
Ouais.
Et aujourd'hui, on est en étape de recherche et développement et il devrait être disponible d'une part pour le mobilier d'ici un an, pour le second œuvre en bâtiment, donc tout ce qui concerne les façades, les toitures et les éléments de plancher d'ici 2 ans, et dans un horizon de 5 ans pour produire des éléments en bois armé hyper performants pour construire les bâtiments de demain.
Et Wudu, concrètement, c'est une start-up avec du travail. Vous avez créé des emplois?
On a créé des emplois, oui. Aujourd'hui, on est 4. Il faut dire que c'est une toute jeune start-up. Moi, si ça fait 3 ans que je travaille sur ce matériau, Wudu existe depuis décembre 2015. Donc, j'ai déposé un brevet, moi, courant 2015, mais cette start-up a 5 mois d'existence. Pour l'instant, on est 4. Et on planifie d'embaucher très prochainement plusieurs chimistes supplémentaires.
Et bien voilà pour ce tour d'horizon de cette nouvelle génération d'innovateurs de moins de 35 ans, donc les Français, hein, récompensés par la revue MIT Technology. Franz Bojak, Laurent Boitard, Clémentine Chambon à Londres, Timothée Boitouzé donc à Lisbonne. Merci beaucoup d'être venu nous parler de vos projets et puis longue route à vous. Et puis j'espère que vous susciterez peut-être des vocations pour certains d'entre nous qui vous écoutent et qui auront envie de vous suivre. Merci infiniment.
Merci
d'être passé aujourd'hui.
Merci.
Dans notre club des têtes au carré. Merci à tous. Anne-Laure Cochet était à la technique, Thierry Dupin assurait la programmation musicale de l'émission. Puis dans un instant, juste après les informations, vous retrouverez Affaires Sensibles avec Fabrice Drouel. Ce sera la fiction du vendredi avec aujourd'hui les Pink Panthers. Passez un excellent week-end. Lundi, dans la tête au carré, on s'intéressera à un phénomène que vous allez pouvoir observer lundi après-midi. C'est le passage de Mercure devant le Soleil. Allez, bon week-end, à lundi.